Les Kazakhs Bublik et Golubev, Mahut, ouais. Herbert, hein, ils ont déjà remporté tous les deux les quatre tournois du Grand Chelem en double.
Allez, il reste à peine 30 secondes pour parler du simple dames actuellement, la seconde demi-finale.
Oui, sous nos yeux, avec effectivement Barbora Krejcikova, la Tchèque, et Maria Sakkari, qui hier a sorti la tenante du titre, la Polonaise Iga Świątek. Nous sommes dans la première manche, avantage pour l'instant à Krejcikova, la Tchèque, 6 jeux à 5.
C'est bien noté, merci Frédéric Suto en direct de Roland-Garros, et c'est ainsi que se referme le journal. Très bonne fin d'après-midi à notre écoute.
Radio G. 101.5 FM.
Envie de radio ? Devenez animateur ou animatrice de Radio G.
Si l'expérience du micro et du média radiophonique vous passionne ou vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 juin 2021 pour proposer votre propre émission à Radio G.
Si votre projet est retenu, il sera diffusé pendant toute une saison. Alors, n'attendez plus.
Et rendez-vous sur radio-g.fr pour plus d'informations.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse. C'est la quotidienne de Radio G consacrée du lundi au jeudi aux actualités culturelles et locales. On est jeudi, c'est le dernier jour de la semaine et c'est le jour où on retrouve Benoît pour la chronique science, nature et environnement. Je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission. C'est aussi le jour où on retrouve un des reportages issus de notre série consacrée au dispositif du service civique. Cette fois-ci, nous serons avec Jet FM à Nantes, avec le VLIP, on va parler de vidéo. Et enfin, pour débuter cette émission, nous allons retrouver un partenaire, la commune de Loire-Authion, et sa saison culturelle qui reprend, qui se termine aussi, car c'est le mois de juin bien sûr. Mais il y a énormément de choses à voir, à découvrir cet été, grâce à la Biennale des Grands Fleuves consacrée au fleuve Sénégal. On va voir ça ensemble et en détail dès le début de cette émission. Mais avant, comme d'habitude, car nous avons nos petites habitudes, on ouvre en musique et j'ai choisi le titre Fana de Johnny Face en featuring, comme on dit, avec Mohamed Camara, un des artistes qu'on retrouvera cet été à Loire-Authion. Alors je vous l'ai dit, ce soir on retrouve un partenaire de l'émission à travers la saison culturelle de la commune de Loir-Étion, Authion. Et pour en parler, je suis avec Céline Ducoq. Bonsoir.
Bonsoir.
Grâce à la magie de la technologie, vous êtes là et à Loir-Authion, vous vous occupez de la coordination et de la programmation culturelle.
C'est ça.
Et il y a également Charlotte Gruet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en charge de l'événementiel, toujours à Loir-Authion bien sûr.
C'est ça.
Alors on se retrouve pour parler de la saison culturelle. Alors bien sûr on le sait, cette saison elle s'est pas du tout passée comme prévu. Mais on retrouve enfin des spectacles vivants, en direct. Dans deux jours on pourra retrouver la compagnie Trois fois rien, qui clôturera la saison avec du cirque contemporain. Le spectacle s'appelle Reflet. Alors il est heureusement et malheureusement pour nous complet, mais peut-être qu'on peut le présenter en quelques mots.
Oui, donc le Reflet, c'est la nouvelle création de la compagnie Trois fois rien. C'est une création qui aurait dû voir le jour à l'automne dernier, qui, bon, vu le contexte, ne sort que maintenant. Mais justement, la compagnie est très heureuse de pouvoir présenter voilà, le fruit de son travail, qui a été long mais fructueux. Donc voilà, c'est un duo circassien avec des techniques assez différentes, assez, essentiellement basées sur l'acrobatie. Avec beaucoup de travail autour de l'objet et d'une esthétique très fine. Donc c'est un spectacle qui s'adresse à tous les publics et en effet, malheureusement, heureusement quelque part, le spectacle est complet, mais d'autres dates dans la région sont à venir. Voilà, faut pas hésiter à aller voir sur le site de la compagnie si vous voulez découvrir le travail.
Oui, ça n'empêche pas de découvrir leur travail qui a l'air effectivement très poétique, très onirique, c'est sous un chapiteau. Là, on sent qu'il y a des jeux avec les perceptions aussi dans ce spectacle-là.
Enfin, ouais, voilà, c'est ça, ils jouent un peu sur la dimension de miroir. Mmh. Voilà, ce sont deux frères à la ville et ils jouent un peu de cette dualité d'identité.
Et c'était important pour vous de clôturer la saison avec un spectacle qui puisse avoir lieu ?
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que la saison tout public n'a pas été visible puisqu'on n'a pas pu jouer cette année. Cependant, on a quand même réussi à présenter des choses pour des publics ciblés, que ce soit pour des scolaires, on avait le droit de le faire. On a pu faire des impromptus également. C'est ce qu'on a fait au mois de mai sur le marché de Saint-Mathurin-sur-Loire avec le collectif EDA. Mais on était heureux de pouvoir au moins présenter un spectacle qui clôt en effet cette saison. Un spectacle sous chapiteau dans un lieu en plus voilà qui est chaleureux et qui permet malgré tout de finir sur une touche positive cette saison.
Ouais. Alors cette saison elle se termine, mais il y a aussi l'été qui arrive et jusqu'au 3 septembre, vous programmez de nombreux événements, des rendez-vous autour de la Biennale des grands fleuves du monde qui est consacrée cette année au fleuve Sénégal. Cette biennale elle existe depuis 2008 et elle est aujourd'hui portée par la commune de Loir-Authion et l'association de la Maison de Loire en Anjou. Pour revenir sur l'histoire du projet de cette manifestation, j'ai l'impression, si je comprends bien, qu'elle part de la Loire, mais vraiment pour aller s'ouvrir au monde entier et au rapport qu'on peut entretenir avec les fleuves.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment amener un petit peu les habitants de Loir-Authion à pouvoir s'ouvrir sur l'international et puis comparer les relations entre les hommes et leurs fleuves à travers le monde. Donc cette année, effectivement, c'est sur le Sénégal. Enfin, ça fait même maintenant 2 ans qu'on travaille dessus et on a adapté un petit peu l'événement fleuve en fait qui devait clôturer cette biennale en l'étalant sur plusieurs programmations tout au long de l'été.
C'est devenu un rendez-vous beaucoup plus long qui va nous accompagner pendant 2 mois et on y retrouve une programmation très très variée. C'est intéressant, il y a à la fois des concerts, des expositions, des contes, conférences, documentaires, il y a plein de choses de nature très très différentes.
Oui, on essaie de toucher vraiment tous les publics, à la fois avec des documentaires et tables rondes, mais aussi des découvertes de musées, des conférences, des expositions de peinture, parce qu'on a aussi fait travailler les habitants et les associations de la commune sur le projet depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est un petit peu un aboutissement de tout ce travail qui a eu lieu en amont.
Ouais. Alors, la programmation complète, je le dis, elle est sur le site loire-aution.fr. J'ai cru voir que les événements étaient gratuits aussi.
Oui, c'est ça, tout est gratuit et ouvert à tous. Alors après, on a les contraintes de jauge liées au protocole sanitaire en vigueur en fonction des différentes dates, mais c'est absolument ouvert à tous, oui.
C'est difficile de choisir et j'imagine qu'on ne va pas être entièrement exhaustif sur cette programmation, mais est-ce que vous auriez envie de mettre en avant déjà une première date dans cette programmation autour du Sénégal ?
Oui, alors il y a déjà effectivement le 16 juin, la prochaine date qui arrive à Saint-Mathurin-sur-Loire avec le documentaire « Écoute le fleuve » qui va être suivi d'une table ronde et puis d'échanges autour du documentaire en question qui a lieu à la salle des fêtes de Saint-Mathurin-sur-Loire à 20h, qui se trouve être le prochain rendez-vous autour du Sénégal. Et puis éventuellement un petit clin d'œil sur le dernier rendez-vous qui sera le 3 septembre, qui là viendra clôturer un petit peu les festivités en extérieur sur le port Maillard. Donc on sera à la Daguenière cette fois. C'est encore un rendez-vous à 20h, mais cette fois pour un grand bal et un concert un petit peu plus participatif et dynamique qui va nous emmener tout au bout de la nuit, voilà, pour danser.
Ouais, on écoutera tout à l'heure de la musique. J'ai essayé de piocher dans cette programmation. Là, le concert, il est proposé par Soroké, qui est un groupe autour d'un trio féminin qui est très, très dynamique. J'ai été écouter des choses. Oui, ça donne envie de danser. Il y a aussi un soir au maquis de Don Caddy où on va vraiment en fait être dans cette ambiance de aller sortir le soir, danser avec, en reprenant plein de des choses de la culture qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest.
Oui, c'est à la fois vraiment chercher un moment de convivialité, de partage et la danse qui effectivement fait partie des soirées au maquis dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un petit peu rendre hommage à ces soirées qu'on pourrait retrouver là-bas.
Donc ça, ce sera à partir de 20h le 3 septembre. Il faudra qu'on soit un petit peu patient et patiente.
Voilà.
Un autre rendez-vous qui m'interpelle, beaucoup plus proche de nous, c'est celui du 18 juin, une soirée au musée. Alors si je comprends bien, on va pouvoir se glisser en dehors des ouvertures habituelles au musée.
Oui, alors Loire-Odyssée, du coup, à Saint-Mathurin-sur-Loire, a une scénographie qui est dédiée à la Loire de manière constante. Et puis là, tous les 2 ans, elle renouvelle une scénographie plus ponctuelle. Cette année, du coup, elle est dédiée sur le fleuve Sénégal. On voyage, du coup, avec un petit personnage qui s'appelle Adama. Et on se retrouve embarqué dans son histoire à la recherche de sa grand-mère. Et il y a tout un parcours ludique et interactif avec plein de choses à toucher, à découvrir, et effectivement c'est l'occasion de sortir des cadres un peu traditionnels du musée pour voyager déjà en famille et en soirée.
Est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir à cet événement, cette manifestation, ou on peut venir le jour même?
Alors oui, effectivement il vaut mieux réserver auprès de Loire-Odyssée.
Très bien, c'est noté, merci beaucoup. Il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en avant. Moi, j'ai regardé aussi, alors ce sera un petit peu plus lointain cet été, mais on pourra découvrir des contes, les contes de Teranga, par Souleymane Bodge. Je suis désolée, je suis à peu près certaine d'avoir écorché son nom, qui est conteur, qui est auteur, et qui nous emmène dans des contes qui changent vraiment selon le public qu'il peut avoir face à lui. Donc c'est vraiment tout public, hein, les enfants sont bienvenus. Est-ce que vous auriez envie de compléter un peu le portrait de ces contes qui sont autour de l'accueil?
Souleymane est à la fois musicien, conteur, écrivain, donc il va pouvoir non seulement conter, nous faire voyager, mais le tout en musique. C'est partager encore un petit peu de cette teranga. La teranga, c'est l'accueil en fait au Sénégal. C'est le fait justement de partager des moments et d'être vraiment les uns avec les autres. Donc il y a vraiment des valeurs qui sont partagées à travers ces contes également.
Ouais, et il explique.
Et c'est aussi tout public.
Ouais. Il explique aussi que les contes appartiennent à ceux et celles qui les écoutent, selon lui. Ou selon sa tradition, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a donné envie d'y aller. Voilà, je vous l'avoue. Et vous organisez aussi une exposition. Alors là, c'est beaucoup plus sur un temps long, avec le travail d'Antonin Huchet, qui est plasticien angevin et autodidacte, et qui a beaucoup travaillé autour du fleuve Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu?
Oui, donc Antonin, du coup, il est à la fois voyageur et plasticien. Il récupère du bois flotté et différents outils qu'il va pouvoir se réapproprier et créer plutôt. Alors là, il avait toute une série d'oiseaux, en fait, d'oiseaux en bois flotté. Donc, c'était assez intéressant par rapport à la thématique du fleuve, avec notamment les oiseaux migrateurs aussi. On en retrouve à la fois sur le fleuve de la Loire, mais aussi sur celui du Sénégal. Donc, il va pouvoir implanter ces oiseaux sur Loire-Odyssée, enfin, dans l'exposition du musée. Et puis, il a également fait un dôme avec des étudiants, alors là c'était plutôt au Mali, qui ont travaillé sur des bogolans, des peintures sur tissu. Donc il y a tout un dôme qui va être également monté à Loire-Odyssée. Et puis on a une exposition également qui viendra avec des peintures de l'association Art et Découverte, compléter toute la visite. Et puis il y a eu un travail aussi avec les écoles, donc voilà, plusieurs expositions qui vont se compléter.
Vous nous avez dit, c'est aussi un événement qui a permis de travailler avec les habitants et les habitantes de Loire-Authion autour du fleuve Sénégal. Quels sont peut-être les retours que vous avez pu avoir? Et je me disais aussi, est-ce qu'il y a un lien qui a pu changer avec la Loire, qui est beaucoup plus proche de nous, ou dans le regard qu'on peut lui porter?
C'est vrai que l'attrait du port Maillard, il est vraiment en développement aussi. C'est un site de la commune qui bénéficie de grands espaces verts et qui est très convivial, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi une guinguette qui est installée et il y a beaucoup de vie et d'animation qui s'y passe. Donc, petit à petit, les habitants, oui, vraiment reprennent un petit peu leur marque autour du fleuve. Et on peut notamment y voir à ce port Maillard tout un décor en fait avec des masques qui ont été faits par aussi des habitants de la commune. Et ils y ont mis un petit peu tout leur cœur depuis 2 ans à peindre, à confectionner ces masques. Et il y a toute une quarantaine de masques qui égayent la descente du port Maillard avec des citations africaines. Donc même en allant sur les bords de Loire, on a tout de suite un clin d'œil vraiment à la culture sénégalaise et malienne.
Oui, parce que le fleuve Sénégal parcourt de nombreux pays et irrigue. Enfin, on retrouvera tout ça au cœur de la programmation. Est-ce que vous savez déjà quel sera le prochain fleuve de la prochaine biennale? Ou c'est un peu tôt?
Oui, effectivement. on a déjà réfléchi. Hein. Ça y est, c'est déjà sorti dans les tuyaux, puisqu'on travaille sur la programmation aussi à venir. Et ce sera plutôt un autre continent. On va se pencher sur l'Amérique.
Très bien, mais je m'égare. Je vois que le temps file. Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on aurait oubliées sur cette programmation de l'été, donc qui est vraiment centrée autour de cette biennale, autour du fleuve Sénégal?
Moi, je voulais juste ajouter en complément. Alors, donc, en effet, il y a la biennale qui est le gros temps fort de cet été. Mais on a aussi quelques spectacles qu'on a proposés un peu dans l'esprit de l'année dernière sur la commune également, avec des petites formes qui seront en extérieur, en petite jauge. Donc, c'est le cas d'une petite forme de la compagnie presque siamoise, Folline, qui sera proposée le 27 juillet. Mmh. Ou d'une promenade en espace naturel à Brun-sur-Lothion avec la compagnie Vent Vif. Et on a également 2 spectacles de la saison culturelle qu'on a reporté cet été, C'est le cas avec Barbe Bleue, assez bien raconté, qui sera présenté par Titus. Donc c'est un spectacle qu'on devait accueillir en salle, mais que Titus joue également en extérieur. Donc il sera présenté le dimanche 11 juillet. Au théâtre de Verdure d'Andard, et After the Beast, qui est un duo musical qu'on accueillera dans le cadre d'une rando lune le 24 juillet.
Ouais.
Voilà, donc c'est un ensemble de programmations qui peuvent être retrouvées évidemment en ligne et qui sont également accessibles gratuitement dans le respect évidemment des protocoles en cours.
Oui, mais c'est assez réjouissant de savoir que des choses vont avoir lieu, qu'on va pouvoir découvrir des spectacles, une programmation toute fraîche aussi.
La vie reprend.
Oui, on s'en réjouit. On découvrira la saison prochaine, la prochaine saison aussi, qui j'imagine s'écrit également. Je vais quand même renvoyer vers votre site, à moins qu'on ait des choses très importantes à dire, mais je vois mon horloge qui défile à toute vitesse.
Je me permets juste de rajouter qu'il y a aussi 7 apéro-concerts qui seront donnés sur les différentes communes déléguées tout au long de l'été. Les samedis ou vendredis soirs à 19h, donc avec un groupe musical. Voilà, chaque week-end, tout ça c'est gratuit et ouvert à tous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline, Charlotte. Donc je vous renvoie vers le site de la commune de Loire-Authion, loire-authion.fr. Toutes les infos y sont, c'est très clair. Et on va clôturer ce moment, ce saut dans cette programmation avec Assez Tout Diabaté. Le titre, c'est Othéné. Et on la retrouvera dans le concert qui clôture la biennale consacrée au fleuve Sénégal. C'est le 3 septembre. On l'a vu ensemble. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.
Honorable mère de la nation, quand tu élèves ta voix de cristal, Touramagan, tu détournes les cours d'eau. Kaladjula, tu repousses les déserts.
C'est difficile de couper ce titre d'Assetou Diabaté, mais le temps m'y contraint. Si ça vous plaît comme ambiance, eh bien rendez-vous le 3 septembre à la commune de Loire-Authion. Vous êtes bien sûr à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur le 101.5 FM Radio G. Et on va poursuivre avec un reportage consacré au service civique avant de retrouver la chronique Science, Nature et Environnement.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Bonjour, alors je m'appelle Romain Séchet et je suis ancien service civique au VLIP. C'est une association étudiante à Nantes qui vise à favoriser l'accès à la production médiatique. Et moi j'étais en service civique de octobre 2019 à mai 2020. J'accompagnais le technicien audiovisuel du VLIP, je m'occupais de la gestion du matériel et puis de l'accompagnement des bénévoles. Moi je les accompagnais sur la partie technique. Et actuellement, je suis aide-soignant dans un EHPAD.
Et alors, pourquoi avoir fait un service civique à l'époque ?
Alors, à l'époque, donc, l'année d'avant, avant de commencer mon service civique, j'étais à la fac. Et ça me plaisait pas trop, la fac. Je voulais un peu chercher autre chose et un truc un peu plus concret. Bon, en fait, je voulais un peu me professionnaliser dans la vidéo, donc dans le montage et dans la réalisation. Et donc, j'ai trouvé ce service civique. En fait, je voulais pas plus que ça faire un service civique. Je voulais faire de la vidéo.
Qu'est-ce que ça t'a appris, le service civique ? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence au niveau professionnel ?
J'ai appris à monter sur des logiciels professionnels, à utiliser du matériel professionnel, des caméras de vrais journalistes professionnels, on va dire. Et après, c'est pas forcément le truc que j'utilise aujourd'hui dans ma vie professionnelle, mais c'est le truc qui me sert quand même beaucoup à côté parce que je continue à faire des vidéos.
Et à part l'aspect technique, qu'est-ce que tu retiens de ce service civique ?
C'était très sympa de rencontrer les bénévoles. Moi, j'avais aussi toute la partie formation des bénévoles qui était intéressante. Où tu leur fais découvrir un peu ta passion, tu leur montres comment la caméra fonctionne, comment tu vas t'organiser pour faire ton montage et tout. C'était très sympa.
Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait un service civique t'a aidé dans la suite de ton parcours professionnel ou scolaire ? Et en quoi, dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui est apprécié par les recruteurs ?
Je pense que c'est apprécié par les recruteurs parce que ça justifie d'une expérience dans un milieu professionnel ou semi-professionnel. Après, j'imagine que sur un CV, ça fait bien d'avoir fait un service civique. Ça fait un peu d'expérience et tout, même si c'est pas dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui.
Est-ce que tu aurais des retours à faire sur le dispositif du service civique ?
Autant, je trouve que mon service civique s'est bien déroulé. La structure qui m'a accueilli, ça s'est très bien passé. J'en suis très satisfait. Autant le dispositif, je trouve qu'il y a plein de choses à redire sur le fait que déjà c'est très mal payé. J'ai un peu un sentiment amer vis-à-vis quand même de comment c'est promu et comment c'est géré. Parce qu'en fait, c'est une forme de travail dissimulé, je trouve. C'est une manière de dire bon, c'est super, les jeunes, vous allez faire un peu d'expérience. C'est le cas, ça permet de se faire de l'expérience en tant que jeune, de trouver un truc assez facilement, mais faut pas oublier que c'est quand même du travail. Et en fait, t'as quasiment aucun droit, t'as pas de droit de travailleur parce que tu n'es pas considéré comme étant travailleur. Moi, par exemple, un truc qui m'a un peu choqué, c'est que quand tu es en service civique, tu ne cotises pas au chômage. Malheureusement, je trouve que c'est difficile de mobiliser un petit peu les volontaires en service civique sur les questions de leurs revenus, de leurs conditions de travail. Des fois, ça se passe mal, machin. Avec des potes service civique d'un peu partout dans Nantes, de plusieurs assos, On avait commencé à discuter un petit peu de ça et ça n'a pas abouti à grand chose, mais je pense qu'il faut pas hésiter, s'il y a des services civiques qui entendent ça, faut pas hésiter à en discuter un peu collectivement, parce que la galère, la précarité et tout, c'est chez les étudiants, mais c'est aussi chez les services civiques, et ça représente beaucoup de monde, les services civiques.
Est-ce que tu conseilles ou as déjà conseillé à d'autres jeunes de faire un service civique?
Moi, j'ai conseillé à des potes de faire des services civiques, mais uniquement si c'était dans des domaines qui les intéressaient. Mais par contre, moi, ça m'a beaucoup aidé à déjà prendre une année pendant laquelle tu fais un truc qui te passionne, puis t'as un peu le temps aussi de réfléchir à ce que tu vas faire après, faire enfin quelque chose qui te plaît et dans lequel tu t'épanouis et où t'as des résultats qui sont satisfaisants. Ça, c'était un gros plus.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Cette capsule sonore a été réalisée par Juliette en service civique à JTFM.
Et on va maintenant parler de science, de nature et d'environnement avec Benoît. Benoît, est-ce que tu m'entends bien ?
Oui, je te reçois, Annie.
Mais nous aussi, on te reçoit.
Bonsoir à tous.
Qu'as-tu mis dans ta chronique aujourd'hui ?
Quelques infos de nature, hein, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Donc, et on va commencer, parce que c'est moins commun par les temps qui courent, mais ça reprend, ça redémarre, par une conférence qui aura lieu à Angers, à l'Institut municipal, dans le cadre d'un cycle de conférences sur le végétal, donc qui est organisé par Terre des Sciences, hein, le centre de culture scientifique d'Angers. Et donc, c'est une conférence qui s'intitule « Comment innover dans le végétal avec les consommateurs ?» Ça aura lieu le 16 juin de 18h30 à 20h à l'Institut municipal, ou bien en distanciel. Donc, vous allez sur le site de Terre des Sciences et il y a le lien pour s'inscrire et pouvoir suivre en visio, en fait, de chez soi. Donc, c'est une conférence qui est animée par Ronan Simoneau, qui est chargé de recherche à l'École supérieure d'agriculture. Et donc, il va parler de l'implication des consommateurs dans les recherches sur l'innovation, les processus d'innovation dans le monde végétal. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et puis bon, c'est aussi l'occasion de rappeler, de se rendre compte que Angers est à la pointe dans tous ces domaines de recherche autour du végétal. Donc rendez-vous le 16 juin, donc la semaine prochaine, à 18h30.
Très bien.
À l'Institut municipal ou en visio.
Et ça,
donc voilà, ça repart et on espère maintenant que les choses commencent à se débloquer, que cet été, puis à partir de la rentrée, on puisse avoir des activités de culture scientifique à peu près normal, détendu, en toute convivialité.
Ouais.
Voilà. Alors ensuite, quelques actus. Alors j'en ai sélectionné alors deux, peut-être trois, selon le temps qu'il nous reste. Hein. Je vois qu'il est 43 déjà, donc attention danger. Je sais que tu me surveilles de près au niveau du...
On explose souvent les horaires.
Ouais, donc on y va, c'est parti. Alors voilà, il a été découvert récemment un œuf géant d'un oiseau miniature. Extraordinaire. Ça se passe sur une île dans le sud de l'Australie. Alors, pour raconter une histoire, les Européens ont découvert une île qui s'appelle King Island, au sud de l'Australie, à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Et cette île, elle abritait une petite espèce d'émeu. L'émeu, c'est un oiseau de la famille des autruches.
Hein. Ouais.
Mais c'est un peu l'autruche d'Australie. Hein. Ça, il s'appelle l'émeu. Il pond un œuf noir. Et c'est un animal, en tout cas, l'Australie, sur le territoire australien, il est assez gros, hein, enfin assez grand. C'est le deuxième plus grand oiseau du monde, puisqu'il peut mesurer presque 2 mètres, hein, au moins 1,80 m de hauteur. Et en fait, sur cette île, on a découvert, alors les hommes, quand ils sont arrivés, ont découvert des animaux, ces oiseaux-là, mais qui étaient beaucoup plus petits. Alors c'était très curieux, et à tel point qu'ils en ont rapporté. ils en ont rapporté de cette région d'Océanie, et ils en ont rapporté à Paris au début du 19e siècle. Mmh. Et hélas, il y a eu plusieurs oiseaux qui ont été emmenés pour le trajet en bateau, mais il n'y en a que deux qui ont survécu. Mmh. Il y a un mâle et une femelle, ils n'ont pas fait de petits, et ils sont morts à Paris en 1822. Donc c'est des animaux qu'en fait, qu'on a connus une dizaine d'années, entre leur découverte et la disparition de l'espèce. C'est vraiment très peu, et on sait très peu de choses sur cet animal.
Donc sur cette version d'émeu en miniature.
Ouais, voilà, exactement. Alors ils étaient tout petits, puisqu'on a découvert des fossiles, on les a mesurés quand on les a découverts, bien entendu. Hein, mais l'homme est arrivé, il a très rapidement débroussaillé d'une part et chassé pour manger d'autre part. Donc il faut rappeler qu'un émeu d'un mètre, c'est plus, sûrement plus facile à attraper qu'un émeu de 2 mètres.
Ouais.
C'est moins dangereux quand on le chasse. Donc ils ne volent pas, les émeus. Donc c'était sans doute assez facile à tuer, hein, avec des armes à feu, voire même des lances. Ouais. Donc ils ont très très vite, en une dizaine d'années, ils ont disparu. Et on a seulement des traces de ces oiseaux-là dans les collections des musées.
Mm.
Alors il y a des chercheurs du muséum anglais, du muséum de Londres, qui ont entamé des recherches et qui ont fait des fouilles sur place. Et ils ont trouvé des choses tout à fait intéressantes, notamment des œufs. Ils ont pu reconstituer un œuf presque complet de cet oiseau, et il s'avère qu'il était quasiment aussi gros que l'œuf de l'émeu d'Australie, donc on peut dire entre guillemets l'espèce mère, alors que l'oiseau est presque 2 fois plus petit. Donc c'est curieux. Alors il y a quelques hypothèses pour cela. C'est que plus l'œuf est gros, plus le poussin qui va en sortir est gros. Et donc, d'un point de vue pragmatique, plus il est apte à survivre, en fait. Hein, plus,
ouais,
plus,
il a de l'avance.
C'est quelque chose qui est connu, notamment en Nouvelle-Zélande, avec le kiwi. Le kiwi, il pond des œufs énormes par rapport à sa taille. Mais le petit kiwi, quand il sort de l'œuf, il peut déjà gambader et... C'est pas un frêle petit poussin qui est coincé dans les pattes de ses parents, quoi.
Ouais, stratégiquement pour survivre, c'est pas mal.
Donc voilà, c'est sûrement une stratégie évolutive, hein, même si l'évolution, elle a pas de stratégie particulière, mais c'est une adaptation en tout cas à la meilleure survie des petits. Donc c'est tout à fait intéressant de faire ce constat avec une espèce finalement qu'on a très très peu connue. Voilà, c'était une info.
Ouais.
Que je souhaitais partager, et notamment la taille des œufs, c'est aussi résultat d'un processus évolutif de millions d'années, et c'est pas anodin. Alors on pourrait parler aussi parfois de la forme des œufs,
ouais,
puisque chez certaines espèces d'oiseaux, les œufs ont une forme particulière, notamment les oiseaux, j'en terminerai là pour cette info, les oiseaux qui pondent sur les falaises, sur les abords rocheux, etc. Eh bien ils ont des œufs dont la forme en fait ne permet pas à l'œuf de rouler et de tomber. En fait, si tu pousses cet œuf-là, il va tourner sur place.
Non. Mais est-ce qu'il ressemble à un ovale quand même ?
Ouais, c'est ça. C'est une forme de poire un peu allongée.
Comme
donc,
une figue.
Quand tu le pousses, en fait, il
ou
tourne.
Ou une pêche.
Donc, en cas de. Là-bas, enfin, quand, sur les îles au large de l'Écosse, etc., ou qui sont remplies de milliers et de millions d'oiseaux marins, les œufs sont des fois reposent sur. À flanc de falaise, sur des tout petits morceaux, enfin, sur une petite plage de quelques centimètres, hein, avec le vent, etc., l'œuf ne peut pas tomber. C'est une adaptation aussi.
Très bien.
Donc, c'est assez extraordinaire de remarquer ces petites choses de la nature.
Ouais, là, tu nous as appris 2 choses en une.
Trop bien. Hein.
Trop bien, ouais.
Alors, on va en parler d'une troisième. une actu qui concerne une étude. Faite par des chercheurs du Musée de l'Homme, c'est dans un établissement du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Ils ont travaillé sur les gorilles de l'Ouest et ils se sont intéressés à comment les jeunes adultes se dispersent une fois qu'ils ont terminé leur adolescence et qu'ils ont envie de vivre leur vie d'adulte, de fonder une famille, etc.
Mm-hmm.
Alors, on sait des choses classiquement, et là, l'étude a montré que les femelles, elles elles quittent les groupes, mais elles vont dans des groupes moins éloignés avant de se reproduire, et de parenté proche. Et notamment parce que quand elles sont dans les groupes assez apparentés, eh bien, il y a plus de chances que les femelles entre elles, elles coopèrent. Mmh. Alors que les mâles, c'est pas le cas, ils vont un peu plus loin et ils peuvent constituer des groupes plus tard.
Ouais.
Donc, l'étude, ça, c'est ce qu'on savait avant. Donc, l'étude qui fournissait peu de choses et peu de précisions sur par manque d'observateurs, c'est compliqué d'étudier les gorilles parce qu'il faut que les observateurs qui les regardent, là, on parle des gorilles de l'Ouest, hein, donc c'est une sous-espèce de gorille différente de ceux de l'Ouest, de ceux de, pardon, de l'Est.
Ouais.
Ils vivent dans les forêts du Congo. Et ces gorilles-là, eh bien, il faut que les chercheurs, pour les étudier, ils puissent se faire accepter des groupes. Mmh. Et puis passer beaucoup de temps à les regarder, à étudier leur comportement. C'est quasiment de l'anthropologie, hein. On étudie les liens sociaux, comment tout ça se passe. Et là, l'étude a pu se faire comme ça, et ça a permis de mieux examiner la disparition des mâles et des femelles. Par ailleurs, ça a été couplé avec donc l'observation directe, mais aussi des données génétiques pour voir les liens de parenté dans les différents groupes constitués. Donc, l'étude a montré que les femelles ne sont finalement pas spécialement apparentées au sein des groupes. Donc, il n'y a pas de phénomène d'alliance parentale comme on pouvait le croire par des études précédentes.
Ouais. Donc, ça remet un petit peu en jeu les études précédentes.
Exactement. Donc, elles ne vont pas forcément vers les groupes voisins. Et puis, ça a confirmé par contre que les mâles semblent se disperser sur de plus grandes distances. Donc, alors c'est probablement le fait que les femelles elles peuvent survivre qu'en groupe. Mmh. Donc il faut qu'elles trouvent rapidement un groupe, alors que les mâles ils peuvent vivre en solitaire pendant assez longtemps en attendant de former leur propre groupe. Donc on a vraiment deux processus de dispersion très contrastés entre les mâles et les femelles. Et aussi ça a permis quand ça a été couplé avec les études génétiques, ça a permis de constater que, eh bien, on pensait que dans un groupe, tous les petits du groupe étaient en fait les enfants du mâle dominant. Il y a un mâle et puis ça s'est constitué comme ça. Et chez Goé, il y a un mâle, le dos argenté, hein, qui vit avec des femelles, et on pensait que tous les petits du groupe étaient
petits
du mâle.
Ouais.
Et c'est pas le cas en fait. Donc c'est complètement inattendu comme résultat. Donc c'est tout à fait intéressant parce que ça dit un que faut pas forcément s'asseoir sur les constats qu'on peut être déjà faits, que renouveler des études, refaire des études avec des moyens nouveaux, des idées nouvelles, et ça peut apporter des résultats nouveaux. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à mieux connaître et comprendre la nature qui nous entoure. Voilà, c'était en résumé.
Un petit rappel.
Un petit rappel, exactement.
Toujours être critique.
Eh oui. Là, pour la dernière info, en fait, je vais faire du teasing pour la prochaine fois. Parce qu'il est 53 et je pense que tu vas me dire qu'il nous reste 2 minutes ou 1 minute.
On est déjà en retard. Donc, ça dépend à quel point cette info est longue.
Eh bien, c'est une info longue. Donc, je vais juste vous dire que la prochaine fois, je parlerai d'une action qui est menée depuis 1989 qui s'appelle le stock. Alors, le stock, ça veut dire suivi temporel des oiseaux communs.
Très bien.
Voilà, donc ça, c'est une super idée qui mêle recherche, observation, science participative et qui permet de dresser un constat sur l'évolution des populations des espèces d'oiseaux communs sur le territoire français. Et il y a des milliers de données qui nous permettent de tirer des conclusions. Donc j'en parlerai pour la dernière chronique de l'année. Dans 15 jours, si tu es d'accord.
J'ai hâte, c'est déjà une annonce. Je vais regarder les oiseaux autour de moi, je vais regarder le stock et on en parle dans 2 semaines.
Ça marche.
Merci beaucoup, Benoît.
De rien, et puis bonne soirée, à dans 15 jours.
À dans 15 jours. Merci à vous d'avoir écouté cette émission Retardataire, un petit peu comme souvent, mais c'est qu'on a tellement de choses à partager avec vous.
On se retrouve lundi à 18h10. On parlera de philo, d'autres actus, des petites surprises comme ça, des infos. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site de Radio G à la page de l'émission, puisque le podcast est en ligne. Si vous avez des choses à nous dire, des retours encourageants et ou critiques, vous pouvez le faire via le formulaire de contact, toujours sur le site ou sur les pages des réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. À 19h, vous retrouvez la programmation musicale ce soir, qui est faite avec soin à Radio G. Et je profite, du temps pour vous dire que si vous avez envie de faire une émission la saison prochaine, il vous reste 5 jours pour proposer votre projet, toujours sur le site de Radio G. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, à lundi.
FM.
I am my only blood.